Laudetur Jesus Christus.
Vers un nouveau départ dans les relations entre la Turquie et l'Union européenne. Après des mois de crispation et de mésentente, les autorités de Bruxelles sont à Ankara aujourd'hui. On se défend de toute complaisance d'un côté comme de l'autre. Reste que chacune des parties a intérêt à un rapprochement. La Jordanie dans la tourmente, une obscure affaire de complot secoue la dynastie hachémite. Le demi-frère du roi Abdallah est accusé d'avoir voulu le renverser avec le concours d'une puissance étrangère. L'Indonésie et le Timor oriental sous les eaux, pluie diluvienne et glissement de terrain ont causé la mort de dizaines de personnes et détruit des milliers d'infrastructures. Et la météo ne devrait pas s'améliorer. Nous ferons aussi un point Covid en Grande-Bretagne qui rouvre ses commerces dits non essentiels et envisage un retour plus ou moins à la normale. Boris Johnson veut la mise en place d'un certificat de vaccination, mais le projet suscite des réserves.
Radio Vatican, le journal, Manuela Figi.
Bonjour à tous. L'Union européenne et la Turquie veulent donc renouer contact. Après des mois de tensions et de relations compliquées, les plus hautes autorités de l'UE, Ursula von der Leyen et Charles Michel, sont à Ankara aujourd'hui pour rencontrer le président Erdogan. Bruxelles pose toutefois des conditions au rapprochement et réclame par exemple la poursuite de la désescalade actuelle, notamment en Méditerranée orientale. Recep Tayyip Erdogan a de son côté un intérêt politique et économique à une réconciliation, mais sa marge de manœuvre est limitée. Istanbul, Anand Lewer.
Si l'on ne peut pas vraiment parler d'une offensive de charme, Recep Tayyip Erdogan a nettement modéré ses paroles à l'égard de l'Union européenne ces derniers mois. L'arrivée de Joe Biden à la tête des États-Unis et la situation préoccupante de l'économie turque ont forcé le chef de l'État à revoir son attitude vis-à-vis des Occidentaux. Tayyip Erdogan espère donc que l'économie bénéficiera de cet apaisement et qu'il pourra lui-même aborder les prochaines élections, en 2023 au plus tard, dans un climat politique plus favorable. Le président turc compte notamment obtenir une réforme de l'union douanière entre la Turquie et l'UE, et peut-être des facilités de visa pour les citoyens turcs. Pour Serhat Güvenç, spécialiste des relations Turquie-UE, c'est la preuve que ces relations sont désormais de nature transactionnelle. Lui-même doute qu'Ankara puisse obtenir gain de cause.
La Turquie et l'UE essaient de sauver leurs relations en s'accrochant à un noyau, un instrument hérité du siècle précédent, l'union douanière. Mais c'est impossible car ces relations ne peuvent pas se résumer à une simple union douanière. Il faudrait donc trouver une autre forme de relation qui ne soit pas la perspective d'adhésion. Mais l'Union européenne n'arrive pas à trouver un consensus pour redéfinir ses liens avec la Turquie.
Recep Tayyip Erdogan lui-même est dans une situation compliquée. Il courtise l'électorat nationaliste et religieux et ne veut donc pas donner l'impression de faire des concessions sans contrepartie. Raison pour laquelle la Turquie s'est dit prête à répondre par des pas positifs aux éventuels gestes des 27, alors qu'en réalité, c'est l'Europe qui attend des gestes concrets de la part de la Turquie. À Istanbul, loi pour Radio Vatican.
Et lui veut justement damer le pion à la Turquie en Libye. Mario Draghi est aujourd'hui à Tripoli. Un déplacement symbolique pour le président du Conseil italien qui veut restaurer le leadership de son pays dans le jeu libyen, dominé ces derniers mois par la Turquie donc, mais aussi par la Russie. La diplomatie au secours de l'accord sur le nucléaire iranien. Les pays signataires du texte de 2015 sont réunis aujourd'hui à Vienne pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être. Également présente dans la capitale autrichienne, une délégation des États-Unis. Washington qui dit envisager une levée des sanctions contre Téhéran. La République islamique salue une déclaration prometteuse et réaliste. Beaucoup de nervosité en Jordanie au sujet de l'affaire du prince Hamza, ce demi-frère du roi Abdallah accusé d'avoir comploté contre le trône. Cette affaire ébranle ce pays vu comme un îlot de stabilité au cœur d'une région marquée par les conflits et les tensions. Et preuve qu'il s'agit d'une question particulièrement délicate, Xavier Sartre, la justice jordanienne a carrément interdit de publier toute information concernant les faits.
Le trône tente en effet, Emmanuel, de contrôler toute information concernant cette affaire qui l'embarrasse au plus haut point. C'est la première fois depuis des années qu'une telle crise secoue la famille royale, très respectée dans le pays. Étaler sa désunion, ses discordes, voire ses divisions politiques serait un signal plus que négatif envers la population. La justice est donc interdit de publier notamment un ordre enregistrement audio de la rencontre qui a circulé depuis hier soir sur Internet. Sur cette bande, on entend le prince Hamza, le principal incriminé, et le général Youssef Runetti, le chef d'état-major, venu samedi chez le demi-frère du roi pour lui signifier son assignation à résidence. Le prince hausse le ton, il critique vertement le gouvernement qu'il rend responsable du mauvais état du royaume, mais aucune mention n'est faite d'un éventuel complot et de l'implication d'une puissance étrangère jusque-là évoquée. La publication de cette conversation intervient alors que le palais royal a mandaté l'oncle du roi pour mener une médiation entre le monarque et son demi-frère. Une mission à réaliser donc dans le cadre familial, à l'abri de toute interférence extérieure. Le prince Hamza a déjà réaffirmé sa fidélité au roi Abdallah. Reste à comprendre maintenant, Manuela, ce qui s'est réellement passé.
Merci beaucoup, Xavier. Et puis de l'autre côté du Jourdain, Benjamin Netanyahou désigné à nouveau Premier ministre. Après consultation des formations politiques élues à la Knesset, le président Rivlin l'a chargé de former un nouveau cabinet. Une gageure pour Bibi qui peine à réunir assez de soutien parmi les députés et qui est sous le coup d'un procès pour corruption dans 3 affaires distinctes. Les secouristes toujours à la recherche des disparus dans le sud de l'Indonésie ainsi qu'au Timor oriental. Les deux pays situés dans la mer de Flores ont été touchés dans la nuit de samedi à dimanche par le puissant cyclone tropical Seroya. Au moins 120 personnes sont mortes, des milliers se retrouvent sans abri. Marine Henriot.
Les pluies diluviennes, puis la crue soudaine amenée par le cyclone ont transformé en champs de boue plusieurs villages des deux pays. Certains hameaux sur les hauteurs ont été totalement emportés. Les habitations ont terminé leur course folle sur le littoral. Des dizaines de personnes sont portées disparues. Les sauveteurs, munis de pelleteuses pour retirer les débris, cherchent des survivants sous les décombres. Mais des routes sont coupées, rendant difficile l'accès aux zones sinistrées. 10 000 habitants ont trouvé refuge dans des abris d'urgence. Les autorités ont besoin de médicaments, de nourriture et de couverture. Les pluies, toujours aussi soutenues depuis ce week-end, rendent la tâche encore plus difficile. Hier, des réservoirs d'eau ont débordé, inondant des maisons, tandis que les secouristes portaient assistance aux sinistrés. Aux opérations de secours s'ajoute une difficulté supplémentaire, la pandémie. Les autorités doivent veiller à ne pas regrouper toutes les personnes évacuées.
Marine Henriot, et puis la tempête progresse désormais en direction de la côte ouest de l'Australie. Au Sri Lanka, le cardinal Ranjit réclame des sanctions contre l'ancien président Sirisena. C'est lui qui était en poste lors des attentats de Pâques de 2019. Et l'archevêque de Colombo l'accuse de négligence pour ne pas avoir tenu compte des avertissements d'attaques islamistes imminentes. Ces attentats avaient fait plus de 250 morts et 2 ans après, l'enquête piétine. Les responsabilités réelles ne sont toujours pas établies. La Corée du Nord ne participera pas aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Pyongyang dit vouloir protéger ses athlètes du coronavirus. Cette annonce faite ce matin a douché les espoirs de la Corée du Sud qui souhaitait profiter de l'occasion pour relancer les discussions avec son voisin. À propos du Covid, plusieurs pays commencent à alléger leurs restrictions. C'est le cas de la Grèce et du Portugal ainsi que de la Grande-Bretagne qui prévoient de rouvrir lundi prochain ses salons de coiffure, ses terrasses de restaurants et ses salles de sport. Encouragés par une amélioration visible des chiffres, mais le projet d'un certificat de vaccination qui serait nécessaire pour accéder aux pubs notamment fait toujours débat. Et puis l'inconnu demeure aussi sur la possibilité de voyager à l'étranger. Jean Jaffré.
Cette nouvelle levée de restrictions à partir de la semaine prochaine est pleinement justifiée par le succès de la campagne de vaccination contre la Covid-19, n'a pas manqué de souligner Boris Johnson lors d'une conférence de presse. 32,5 millions de Britanniques ont en effet reçu une première dose de vaccin. Le Premier ministre a confirmé que les pubs et restaurants qui pourront servir à des tables en extérieur rouvriront, ainsi que les salons de coiffure et les clubs de gym, entre autres. Le gouvernement, tout en affirmant suivre les conseils des scientifiques qui estiment possible une troisième vague de l'épidémie à l'automne, pousse à la reprise de l'activité après 3 mois de confinement. Mais l'idée de devoir présenter une preuve de vaccination ou le résultat d'un test négatif récent sous forme numérisée pour assister à un match de football, par exemple, se heurte à une vive opposition d'une cinquantaine de députés conservateurs. Enfin, voyagistes, compagnies aériennes et aéroports craignent une seconde saison blanche car rien de précis n'a été dévoilé sur le projet de classer les pays selon la prévalence de l'épidémie et de leur couverture vaccinale, en fonction desquels il sera obligatoire soit de s'isoler chez soi au retour, soit de passer une dizaine de jours dans un hôtel en quarantaine qui coûte 2,000 euros environ. Long Jean Jaffré, Radio Vatican.
L'Ukraine veut entrer dans l'OTAN et l'organisation doit accélérer cette démarche. C'est l'appel lancé aujourd'hui par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, pour qui il s'agirait là d'un vrai signal lancé à la Russie, notamment sur le front de la guerre dans le Donbass. Mais Moscou voit les choses différemment. Une adhésion de Kiev à l'OTAN ne ferait qu'empirer le conflit, déclare ce matin le Kremlin. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité vaticane et internationale revient à 18h ce soir en compagnie de Marine Henriot. Je vous souhaite une très belle journée.